Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
Nous voilà de retour sur l'émission Les Voix de l'engagement, une émission qui s'adresse au secteur associatif, aux gens engagés, aux gens qui ont envie de soutenir les plus vulnérables. Donc bienvenue sur Les Voix d'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui agissent au cœur de notre société. Aujourd'hui, nous abordons un sujet aussi sensible qu'essentiel, la justice pénale des mineurs. Lorsqu'un jeune bascule dans la délinquance, la société se trouve face à un choix. Punir, éduquer ou tenter de conjuguer les deux. Comment trouver l'équilibre entre sanctions et accompagnement? Comment offrir à ces jeunes une seconde chance sans nier la gravité des actes commis? Pour éclairer ce débat, nous recevons Maxime Zenou, directeur général au groupe SOS, engagé depuis des années dans la transformation des politiques publiques et des pratiques de terrain. Il porte une conviction forte, la justice des mineurs doit rester éducative avant tout, sans jamais renoncer à sa mission de protection. Avec lui, nous allons revenir sur son parcours, parcourir l'histoire de la justice des mineurs, interroger les réformes récentes et comprendre les effets concrets des mesures éducatives qui accompagnent les jeunes concernés. Car derrière chaque dossier, chaque procédure, il y a une trajectoire humaine et peut-être l'opportunité d'un avenir différent. Bonjour Maxime.
Bonjour Assad, merci pour cette invitation.
C'est moi qui te remercie d'avoir rejoint cette émission et de venir partager ton expertise de longue date, hein, une expertise, tu nous en diras un peu plus tout à l'heure, mais tu as beaucoup œuvré dans le cadre de la protection de l'enfance, mais surtout et en particulier de la justice pénale des mineurs. Alors pourquoi je lis les deux, protection de l'enfance, justice pénale des mineurs? C'est parce que je crois que tu tiens beaucoup à cette idée que la justice pénale des mineurs est d'abord une approche éducative et une façon de donner une nouvelle chance à ces jeunes qui ont commis des actes de délinquance. Et je crois, et tu nous le diras Maxime, je crois que tu défends cette idée que nul n'est au bout de son chemin, hein, ce mantra qui est beaucoup porté au groupe SOS que tu représentes aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a envie de t'entendre sur ces questions-là et on va parcourir avec les auditeurs qui nous écoutent, eh bien, toute cette histoire de la justice pénale des mineurs, mais comment elle s'incarne concrètement et comment le groupe SOS propose des solutions justement en lien avec la protection judiciaire de la jeunesse pour accompagner ces jeunes délinquants, puisqu'il faut les appeler comme ça. Ce sont d'abord des enfants, mais la justice les nomme jeunes délinquants encore aujourd'hui, je crois, mais tu nous en diras plus tout à l'heure. Alors d'abord, Maxime, est-ce que tu peux nous parler ton parcours à toi, ton parcours personnel? Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à rejoindre cet environnement-là? Plutôt, alors je vais le dire, hein, parce que beaucoup nous écoutent en se disant « Waouh, quel sujet, la jeunesse délinquante, etc. » Mais qu'est-ce qui te porte, toi, et quel est ton parcours?
Merci pour les propos introductifs, hein, qui disent déjà beaucoup, beaucoup de choses et qu'on va reprendre tranquillement. Effectivement, tout parcours d'engagement est intimement lié à l'histoire de la personne qui le porte. Et donc, effectivement, c'est pas un hasard. On apprend ça dans les écoles d'éducateurs. On n'est jamais là par hasard. Et donc, effectivement, je ne suis pas en face de toi par le fait du hasard. Et donc, moi, comme beaucoup aujourd'hui des jeunes qui composent notre pays, je suis né à l'étranger, au Maroc. J'ai grandi dans une cité d'habitat social, un quartier populaire. Et c'est vrai que ces deux éléments-là constitutifs de ma biographie ont fait que, assez rapidement, je me suis intéressé aux jeunes, aux questions de jeunesse et aux questions d'éducation. La spécialisation, ensuite, vers la délinquance des jeunes est arrivée après que, en fait, je me sois essayé à tous les métiers à peu près qui sont en rapport avec la jeunesse. J'ai commencé animateur en maternelle, comme on fait dans les quartiers. Alors ma ville, moi, c'était Champigny-sur-Marne.
Je connais un petit peu.
De ceux qui connaissent le travail social. Belle ville par ailleurs, mais qui a connu un développement, comme souvent dans l'histoire de la politique de la ville, avec des grandes barres, des tours et les conditions de vie qui vont avec. Donc j'ai grandi à Champigny-sur-Marne et avec une forte envie d'en sortir. Non pas pas forcément de quitter la ville, mais de quitter ma condition. Et là, j'ai eu la chance d'avoir des parents. Et on va voir que la place des parents, elle est tout à fait essentielle dans nos histoires de vie, évidemment. Des parents qui étaient convaincus que la seule voie de la promotion sociale, c'était les études. Et donc, j'ai fait pas mal d'études, en commençant par ce qui m'intéressait au sortir du lycée, la philosophie, le droit ensuite. Et puis, peu à peu, les questions d'éducation. Et alors après, animateur maternel, animateur de quartier, dans les maisons de quartier, maisons des jeunes. Et puis ensuite, l'éducation nationale, où là aussi, j'ai à peu près exercé tous les métiers, surveillant, d'externat, pion, comme on dit dans le langage trivial. Et puis l'enseignement aussi. Et puis, conseiller d'éducation. Mais en même temps que j'avançais dans ce parcours-là, je cherchais la voie qui serait la mienne. Et c'est vrai que j'étais pas satisfait que d'aborder les élèves pris dans des groupes classes, mais plutôt j'avais très envie de connaître leurs histoires et de voir comment on pouvait, dans une relation adulte-enfant, adulte-adolescent, faire évoluer leurs histoires. Et c'est comme ça que, tout naturellement, étant peu argenté à l'origine, comme je l'ai indiqué, je me suis dirigé vers les concours de la fonction publique, et là je suis rentré dans... j'ai suivi la voie royale qui prend en charge en France, dans notre pays, les mineurs délinquants, c'est-à-dire le ministère de la Justice, les concours du ministère de la Justice. Et donc j'ai passé les concours d'éducateur, les concours de directeur, et j'ai d'abord suivi un parcours très très intéressant. J'étais très engagé, j'ai occupé des fonctions magnifiques d'éducateur, de directeur d'établissement. J'ai travaillé à l'administration centrale, c'est-à-dire au ministère lui-même. J'ai travaillé à l'école nationale qui forme tous les métiers de l'éducation sous mandat judiciaire.
On en reparlera tout à l'heure de l'ENPJJ, l'École nationale de la protection judiciaire.
Exactement, très belle école, très belle école. Moi, j'avais connu d'abord localisée à Vaucresson, et puis qui a ensuite déménagé à Roubaix. Et donc voilà, j'ai eu tout un parcours dans cette administration qui m'a passionné, évidemment, pour approfondir ma connaissance des publics, ma connaissance des méthodes éducatives. J'ai eu la chance de voyager beaucoup à l'étranger, représentant mon administration. J'ai eu la chance de travailler sur les programmes nationaux de prévention et de traitement de la délinquance. Et puis j'ai eu la chance de diriger des établissements, de travailler en direction territoriale dans les services dits déconcentrés. On parle d'une administration d'État très hiérarchisée encore aujourd'hui et très organisée. Après un long parcours au ministère de la Justice, voilà, les connaissances du secteur, les relations, le réseau, dont on sait, peut-être on en reparlera, compte beaucoup dans nos métiers d'engagement. Le réseau qu'on se constitue peu à peu a fait que le groupe SOS, que je ne connaissais absolument pas jusque-là, m'a contacté pour le rejoindre et y développer les réponses à la délinquance des mineurs. Et aujourd'hui, et peut-être en rester là dans un premier temps, le groupe SOS est devenu le premier opérateur national dans les réponses apportées à la délinquance juvénile, et en particulier les réponses institutionnelles, à une structure d'hébergement qu'on a développée un petit peu partout en métropole et dans les Outre-mer, que je cite une première fois, parce que j'ai aussi...
On parlera aussi des Outre-mer.
Des responsabilités dans les Outre-mer.
Ouais. Alors, on parlera effectivement de ces établissements, parce que je veux expliquer aux auditeurs que j'ai en face de moi une sommité. Maxime Zénou est connu partout. Partout où je déambule dans les institutions, les établissements, etc., il y a toujours une personne qui connaît Maxime. Ça, c'est incroyable. Maxime est une référence aussi bien dans la PJJ, mais c'est quelqu'un qui a monté énormément d'établissements qui aujourd'hui composent toute une constellation dans le groupe SOS, mais qui a surtout monté des réponses innovantes, des solutions différentes qui jusque-là étaient portées de manière assez classique. L'arrivée de Maxime a initié des solutions assez différentes, mais tu nous en parleras tout à l'heure. Mais dans des principes connus, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle des CEF, des centres éducatifs fermés, qui ont été ouverts, qui au départ, tu nous en parleras aussi un peu, peuvent effrayer les riverains, etc. Mais les propositions, le contenu de ces approches éducatives dans ces CEF, eh bien, c'est la part du groupe SOS et de ce que tu as élaboré avec les équipes, etc. J'ajoute que tu as recruté énormément. deux directeurs au groupe SOS qui t'ont rejoint parce que ils avaient une certitude, c'est que à tes côtés, ils avaient une ligne d'horizon qu'ils partageaient avec toi, c'est-à-dire des valeurs. Et au groupe SOS, je crois qu'il y a des valeurs très fortes qui sont portées. Tu pourras peut-être nous en partager quelques-unes qui peuvent aujourd'hui engager, mobiliser et donner finalement la force aux professionnels qui partagent ces missions avec toi et les directeurs et les équipes de ces établissements, que je salue au passage. Maxime, la loi du 2 février 1945 vient rompre avec ce qui se faisait depuis des siècles, c'est-à-dire on considérait, et tu me corriges si je me trompe, mais on considérait qu'un mineur était traité comme un majeur, c'est-à-dire comme un adulte, et était en prison avec des adultes, etc. Et ça, ça a duré des siècles, je crois. En 45, rupture avec cette approche, et on considère ces mineurs comme des enfants, et on met là, pour le coup, dans la loi, on inscrit dans la loi l'éducatif, d'abord le répressif, après. Est-ce que tu peux nous parler de cette révolution, parce qu'il s'agit quand même d'une révolution, cette loi, elle est encore prononcée aujourd'hui, on est en 2025, et on la nomme comme ça, on parle de la loi du 2 février 1945.
Très bien, merci pour tous ces éléments qui brossent un paysage à la fois historique et à la fois institutionnel. Mais avant de parler d'institutions, avant de parler des missions de la protection judiciaire et de son secteur habilité justice auquel nous appartenons dans notre organisation, peut-être dire un mot de ce que sont et de comment sont organisées les questions d'éducation dans notre pays.
Bien sûr.
L'éducation, c'est les parents d'abord. L'éducation, c'est l'éducation nationale, évidemment. L'éducation, c'est un ensemble. Et la politique de traitement de la délinquance juvénile, ça m'a un peu ému quand je suis passé par la ville d'Épinay pour te venir. Rejoindre. Ouais. Parce que Épinay, c'était un maire qui a laissé un rapport très très important et qui, de fait, a posé un peu les principes des politiques de traitement de la délinquance. Et en gros, il dit dans ce rapport qui a fait date, hein, au début des années 80, François Mitterrand arrive au pouvoir et il y a un vent de réforme, en tout cas au début de la mandature. Et puis cette idée que la lutte contre la délinquance juvénile, elle repose sur trois piliers essentiels qui sont la prévention et donc toutes les politiques de prévention, la répression, parce que quand on a commis des infractions graves, il faut rendre des comptes à la police, à la justice. Et puis les politiques de solidarité, le troisième pilier, c'est-à-dire toutes les actions qu'il est nécessaire d'entreprendre pour améliorer les conditions de vie de l'enfant et de sa famille. Voilà, il y a d'abord tout ça à traiter avant que de parler de délinquance des mineurs. Et on voit bien que là où on pêche aujourd'hui, dans le débat public, on a mis en avant une tentation de caler, et donc c'est une régression par rapport à ce que tu indiquais, de caler la justice des mineurs sur celle des majeurs, et c'est une grossière erreur, parce qu'en fait la justice des mineurs, elle repose sur un ensemble d'approches, et on ne peut pas en privilégier une par rapport à une autre, et c'est cette politique d'ensemble, cette politique globale, comme on disait dans les théories de la politique de la ville, qu'il faut absolument tenir. Donc oui, des dispositifs institutionnels sont apparus. En gros, on distingue, pour être plus précis au plan historique, trois grandes périodes, le 19e siècle et avant, où effectivement la justice des mineurs ressemblait beaucoup à celle des majeurs. D'ailleurs, les enfants et les adultes étaient mélangés dans les lieux de détention et c'était absolument effroyable. Évidemment, on a eu une histoire qui s'est développée autour de colonies pénitentiaires à partir du 19e siècle. Là aussi, conditions d'accueil tout à fait effroyables. Des centaines de gosses regroupés dans des institutions uniques et qui, ma foi, reproduisaient ce qu'ils avaient connu à l'extérieur.
Ce qu'on appelait les maisons de redressement, c'est
exactement,
ça
ouais. Colonies pénitentiaires, maisons de redressement, maisons de correction aussi, on disait, qui mettaient en œuvre ce qu'on appelait à l'époque la correction paternelle, c'est-à-dire un père de famille qui s'en sortait pas, il pouvait demander à l'autorité publique de placer son enfant dans une de ces maisons. Je recommande par exemple le livre de Sorge Chalandon, qui est un journaliste de Libération, qu'on voit un peu dans les médias ces derniers jours, qui vient de sortir un nouvel ouvrage, et donc qui s'appelle L'Enragé, et qui raconte le parcours d'un jeune dans ces époques-là, et notamment la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer, qui est un nom qui, dans l'imaginaire des professionnels de l'éducation surveillés, comme on disait avant, a marqué bien sûr les esprits, jusqu'à ce qu'on y renonce. Et là, je reviens à ton interrogation autour de l'ordonnance du 2 février 45 relative à l'enfance délinquante. Et effectivement, c'est un texte très fondateur de la justice des mineurs contemporaine qui crée ou renforce l'idée d'une spécialisation des tribunaux, qui crée l'administration de l'éducation surveillée à l'époque et qui crée le métier d'éducateur, qui jusque-là n'existait pas. Donc un texte tout à fait fondateur et dans lequel on va réaffirmer notamment son préambule. Donc, j'invite à la lecture pour ceux qui sont intéressés par ces sujets et qui veulent aller plus loin. Le préambule de l'ordonnance du 2 février 45 est un très beau texte. Il s'inspire directement de la fin de la guerre et des idées très généreuses du Conseil national de la résistance pour affirmer la primauté de la réponse éducative, évidemment, et puis la nécessité de traiter le mineur délinquant d'abord comme un enfant et pas seulement comme un délinquant. C'est cette idée qu'on évoque dans les écoles d'éducateurs. Quand un enfant vole un vélo, est-ce qu'on s'intéresse au vélo ou est-ce qu'on s'intéresse d'abord à l'enfant ?
C'est une belle image. C'est une belle image qui me parle, évidemment, puisque je suis éducateur de formation. Et simplement, c'est vrai que ce texte de 45, il vient signifier quand même la priorité à l'éducatif sur le répressif. La justice spécialisée, tu le disais à l'instant, avec des tribunaux pour enfants, des juges des enfants, dès 45, des éducateurs qui apparaissent effectivement à ce moment-là. Et puis une atténuation de la responsabilité pénale du mineur.
Exactement.
Ça aussi, c'est quand même assez fondamental. Et c'est remis en question aujourd'hui, mais on en reparlera.
Malheureusement, alors il reste une dernière étape qu'on évoquera tout à l'heure. En 2021, pouvoir public, on souhaitait codifier l'ensemble des textes relatifs à la délinquance juvénile. L'ordonnance de 45 avait été réformée des dizaines de fois. C'était un peu fouillis, difficile d'accès. Et donc, il a été produit un code de la justice pénale des mineurs. Code de la justice pénale des mineurs qui, aujourd'hui, est la référence pour ceux qui s'intéressent à ces sujets-là. La référence pour y trouver la définition des infractions et les peines qui sont applicables aux mineurs, les principes qui leur sont applicables et la liste des établissements qui sont répertorié. Après, attention à cette idée, tu as cité un dispositif qui est très emblématique parce que c'est celui dont on parle le plus
les
souvent.
Les CEF, c'est ça ?
Les fameux centres
éducatifs
fermés.
Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va marquer une pause musicale et on revient sur les CEF parce que ça intéresse beaucoup nos auditeurs. Ça un petit peu parce qu'il en existe beaucoup, un peu partout, éparpillés autour de nous. Et ça reste encore peut-être flou pour certains de ce qui s'y passe à l'intérieur. Et tu vas nous l'expliquer tout à l'heure. On marque une pause musicale.
Gonna see. for eventually. If we gon' do something about it, we should do it right now.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Nous revoilà avec notre invité, notre prestigieux invité Maxime Zénou, que beaucoup d'entre vous connaissent et qui nous a rejoint pour venir nous parler dans les voies de l'engagement, de son engagement à lui qui est celui d'accompagner et de créer aussi, ouvrir des dispositifs en mesure pénale. Alors Maxime, tu nous as dresser le tableau sur cette première partie d'émission. Tu nous as parlé de ton parcours, tu nous as parlé de la genèse de cette protection, de cette politique pénale des mineurs avec l'ordonnance 45. Tu as, et à juste titre, rappelé le rôle des parents d'abord. Aujourd'hui, beaucoup de mineurs aujourd'hui sont concernés par cette justice pénale des mineurs. Beaucoup de primo-délinquants, comme on dit, c'est l'usage consacré, sont confrontés à cette justice et beaucoup d'entre eux, parfois, finissent avec une peine qui est celle du CEF. Est-ce que tu peux nous dire d'abord ce que c'est qu'un CEF, ce qu'on y fait et quel est le but recherché en fait de cette mesure ? Est-ce une mesure pénale, donc punitive ? Et est-ce que ce mot est du coup toujours d'actualité et finalement, ou est-ce une démarche décomplexée des magistrats au pénal comme étant une mesure éducative ?
Ok, alors deux précisions avant de te répondre. Et la première et la suivante, c'est que on n'oppose pas dans ceux qui travaillent pour la protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire qui prennent en charge les mineurs auteurs d'infractions pénales à la loi pénale, on n'oppose pas l'éducation et la sanction. Les deux vont de pair. Et ça, c'est très très important de l'avoir à l'esprit, parce que tu parlais de révolution tout à l'heure, et c'est une révolution considérable. C'est-à-dire, on ne juge pas seulement l'acte, mais on prend en compte ce qu'est un enfant qui a commis cet acte, et on voit comment on va pouvoir l'accompagner pour éviter qu'il ne récidive. Donc jamais, pour ce qui nous concerne, et on le répète, c'est un de nos gimmicks, on oppose la sanction et l'éducation. Deuxième idée, l'essentiel des gamins qui sont confiés à la justice pénale des mineurs vont d'abord relever de réponses de milieu ouvert, dont on ne parle jamais, ou presque jamais, et c'est très très important de l'avoir à l'esprit.
Tu parles des
seulement,
SPIP, c'est ça ?
Seulement, les SPIP, c'est l'administration pénitentiaire.
C'est pénitentiaire,
hein,
d'accord.
Donc moi, je parle de la protection judiciaire de la jeunesse, et pour le coup, en milieu ouvert, on va avoir quasiment 97% des jeunes confiés à la protection judiciaire par un juge des enfants qui vont relever de ce mode-là de prise en charge. Donc c'est très important de l'avoir à l'esprit. En réalité, à peine 3% des mineurs confiés vont relever d'un établissement de placement et le plus souvent, c'est une alternative à la prison. C'est-à-dire l'idée, c'est d'essayer d'éviter la prison ou d'offrir des possibilités en sortie d'incarcération. Et là aussi, autre idée qu'on a beaucoup développée dans le groupe SOS, en tout cas à laquelle on est très attaché, c'est de diversifier les réponses. Je vais venir sur les CEF, mais l'intérêt, c'est de pouvoir non pas attendre que le jeune se soit rendu insupportable pour qu'on saisisse le magistrat et qu'on envisage, par exemple, une incarcération, mais l'idée, au contraire, est d'offrir un éventail de réponses possibles pour faire en sorte qu'on puisse passer d'une réponse à l'autre en accompagnant le mineur jusqu'à la majorité pour lui offrir un maximum de chances de sortir de la délinquance. Aujourd'hui, on parle de désistance hein, sur les stratégies de sortie de la délinquance. On reviendra sur ce concept tout à l'heure. Et donc, les CEF, une réponse donc parmi d'autres, pour illustrer ce que je viens de dire, parmi beaucoup d'autres, foyers traditionnels, séjours de rupture, ce qu'on appelle des centres éducatifs renforcés, c'est-à-dire le cran d'avant le CEF, famille d'accueil, c'est moins connu, mais on peut placer des jeunes relevant de la justice des mineurs, la justice pénale des mineurs en famille d'accueil, hébergement individualisé du type studio, appartement, là aussi c'est moins connu, ça interroge plus et on a besoin d'expliquer plus quel type de réponse on met en œuvre et comment on travaille avec ces jeunes-là dans ce type de réponse-là, mais tu vois donc déjà qu'on a listé pas mal de possibilités avec cette idée très importante, ne jamais lâcher le gosse et attendre le déclic jusqu'à ce qu'il se produise. Et nous, comme on est optimiste par nature et par nécessité dans nos métiers, on se dit ça va se produire, il y a un moment où il va arrêter les conneries. Quand ça suffit pas et qu'on a essayé tout ça, le magistrat essaye le centre éducatif fermé, créé en 2002 par les lois dites Perben, Dominique Perben, oui, le garde des Sceaux de l'époque, 1 et 2, qui créent les centres éducatifs fermés et les établissements pénitentiaires pour mineurs, qui là relèvent de l'administration pénitentiaire. C'est toujours une modalité d'incarcération des enfants et des adolescents, qui me paraît intéressante en ce que, par rapport au quartier mineur des maisons d'arrêt, si je suis trop technique, tu me
c'est très bien.
Non,
c'est très
bien. Dans ces lieux-là, il y avait encore des formes de promiscuité. Des gosses pouvaient croiser des adultes dans le cadre des fonctionnements et de la gestion des flux au sein de la prison. En établissement pénitentiaire mineur, il n'y a plus que des gosses, les éducateurs et évidemment les surveillants de l'administration pénitentiaire.
Tu veux dire qu'avant Perben 1 et 2, l'incarcération des mineurs était encore...
En quartier mineur, dans les maisons d'arrêt.
Dans les maisons d'arrêt. Exactement. Et pouvaient croiser des adultes,
et ça,
etc.
Et ça existe encore. Bien sûr, les établissements pénitentiaires n'ont pas pris en charge l'ensemble des mineurs détenus. Donc il ne suffirait pas. Un septième doit ouvrir prochainement en Seine-et-Marne, mais à chaque fois c'est 60 places et ça suffirait pas à absorber le flux. En gros, d'accord, en détention des mineurs, c'est pour ça que quand on entend, et c'est fatigant, mais il faut le répéter parce que une partie de notre métier, c'est de faire la pédagogie de nos pratiques. Environ 800 gosses au moment où on parle sont détenus. D'accord, que ce soit en EPM, donc établissement pénitentiaire, ou en quartier mineur dans les maisons d'arrêt, c'est tout à fait considérable. C'est et ça, je parle du stock, entre guillemets. Ouais. Mais le flux, c'est plus de 3000 gosses, entre 3000 et 3500 gosses qui chaque année passent en prison. Donc on peut pas dire que rien n'a été fait, qu'aucune réponse n'a été apportée, que le gamin a été interpellé puis qu'il a été relâché. Quand il a été relâché, il y a toujours des dispositions qui sont prises, mais malheureusement elles sont pas connues, et les politiques, les hommes politiques, les discours politiques n'entendent pas la complexité et se donnent pas les moyens d'expliquer cette complexité des réponses. On le voit bien dans une affaire récente, combien la tentation va à la caricature. CEF, donc 12 places, un dispositif alors, dont moi je dirais qu'au départ il repose un peu sur une escroquerie intellectuelle. On a une appellation centre éducatif fermé qui souligne une fermeture. Pardon. En réalité, cette fermeture, elle est purement juridique et elle repose sur le projet éducatif qui est mis en place. Mais en réalité, c'est pas une prison. Et donc, et la confusion s'opère souvent dans les esprits. Les gamins qui sont placés en centre éducatif fermé ne sont pas détenus. C'est un gros foyer, un CEF, pour ceux qui en ont jamais vu. Un gros foyer dans lequel on a investi beaucoup de moyens, notamment un ratio d'encadrement très important. C'est seulement si le gamin continue à commettre des infractions, que là, il pourra relever sur décision du magistrat, c'est jamais automatique, d'une incarcération. Donc à l'arrivée, le centre éducatif fermé, au départ, il devait y en avoir une centaine. Aujourd'hui, on arrive péniblement à 55 environ. Une programmation pluriannuelle de la justice prévoit d'en ouvrir une vingtaine. Et ma foi, c'est une réponse intéressante. Moi, j'ai mis du temps quand je suis arrivé dans notre organisation. On va se dire les choses clairement, la gouvernance n'était pas très chaude. On avait encore au conseil d'administration des figures historiques de l'éducation surveillée, dont une que j'aime beaucoup parce qu'il était mon patron quand j'étais dans l'administration, voilà, que je visite encore de temps en temps, qui est un monsieur très âgé aujourd'hui, mais qui était une figure historique, qui se présentait souvent comme ayant fermé les dernières maisons de correction. D'accord. Et donc du même coup, il n'était pas très chaud. Et la gouvernance du groupe l'a longtemps suivi pour dire « non, c'est pas pour nous ». Et d'ailleurs, on a été une des dernières grandes organisations nationales à aller sur la gestion de ces dispositifs. Quand je suis arrivé venant de l'administration et de celle dédiée à la prise en charge des mineurs délinquants, je crois que j'ai à peu près convaincu chacun qu'on pouvait y aller, parce qu'on pouvait, nous, faire de ces centres éducatifs fermés une vraie structure éducative en appuyant sur le E et pas sur le F, parce que le F est un peu illusoire au regard de ce que je viens de dire. En revanche, le E, comme des moyens très importants sont donnés à ces établissements, on se raconte pas d'histoire, gros budget, grosse équipe, gros moyens et possibilité de développer des tas d'actions éducatives tout à fait passionnantes. Et aujourd'hui, on voit bien que beaucoup d'établissements proposent beaucoup de projets éducatifs tout à fait intéressants et qui, je pense, participent de la prise en charge de ces jeunes-là et inscrivent cette prise en charge dans la durée, et c'est ce qu'on avait souhaité faire. La prise en charge est 6 mois renouvelable une fois. En une année, on peut arriver à faire des choses, je crois. Ceci dit, le métier reste très difficile. On se raconte pas d'histoire. Un magistrat célèbre de mes amis, Jean-Pierre Rosenzweig, souvent parle de cocotte minute en évoquant ces établissements-là, parce qu'on va mettre dans un établissement à fonctionnement institutionnel 12 jeunes qui présentent des caractéristiques communes, c'est-à-dire des parcours de vie très très chaotiques. Et donc, c'est extrêmement difficile. C'est peut-être un des métiers les plus difficiles de l'éducation spécialisée, que de travailler et faire fonctionner pour nos directeurs un établissement de cette nature, mais j'ai l'immodestie de penser que nous avons de très belles équipes.
Oui, oui, je le confirme. Tu as évoqué Jean-Pierre Rosenzweig, qui est un juge emblématique hein, de la justice des mineurs, qui a longtemps exercé à Bobigny et qui a aussi fait entendre sa voix dès qu'il le pouvait aux politiques, etc., pour essayer d'influencer ou d'orienter les politiques dans les décisions qu'il pouvait prendre sur ce sujet. S'il nous entend, je le salue je l'invite à nous rejoindre à l'occasion à une émission. Parce que ce que je crains, ou peut-être pas, mais c'est que la justice des mineurs soit à nouveau mis sur la table des parlementaires, rediscuté à nouveau. J'ai regardé, il y a eu depuis 45 énormément de lois qui sont venues soit étayer, soit détricoter la loi de 45. Et avec en arrière-plan un certain nombre d'idéologies aussi sur la jeunesse, etc. Là où on peut dire bah oui, mais il faut les juger comme des adultes, faut les mettre en prison comme des adultes, etc. On peut l'entendre hein, évidemment à ce moment-là, souvent sous le coup de l'émotion, à la faveur parfois de faits divers sanglants ou traumatisants pour le grand public et l'opinion publique. Et pour revenir sur les CEF, j'ai eu la chance de visiter un CEF en Guyane, un CEF qui a été inauguré cette année en 2025 par le ministre de la Justice, dont le nom m'échappe, mais tu vas m'aider.
Gérald Darmanin,
qui l'a inauguré aux côtés de sa directrice emblématique Victoire, que je salue si elle nous entend. J'ai été frappé par ce que, et ça illustre ce que tu disais, c'est-à-dire c'est un CEF qui est très ouvert sur l'extérieur. C'est loin des clichés de la maison d'arrêt classique qu'on peut imaginer, comme la santé avec des murs très hauts, etc. Pas du tout. Et puis des espaces commun avec aménagé pour faire ici du sport, ici de la culture, etc. Ça m'a frappé de voir ces équipes nombreuses. Tu le disais tout à l'heure, ces CEF sont dotés de moyens quand même importants. Et de voir ces équipes éducatives nombreuses cherchant à élaborer des projets à fort impact. Et c'est vrai que ces équipes pilotées par Victoire essayent de faire de leur mieux pour essayer de proposer. Mais j'ai aussi visité un autre CEF en Guyane qui, lui, est au milieu du Nil, du côté CER. C'est un centre éducatif renforcé, pour le coup. Mais le public est le même, c'est-à-dire des enfants en grande détresse, sûrement en grande errance aussi, peut-être.
Et auteurs d'infractions parfois multiples.
Et c'est vrai que ces établissements laissent, en tout cas, entendre qu'il y a quand même un impact. Et moi, qui suis éducateur, et qui voit des jeunes passer par des dispositifs, je vois bien à un moment donné, et puis avec l'expérience que j'ai, alors bien moins importante que la tienne, mais ça fait un peu 25 ans que je fais ce métier, et je vois des jeunes s'en sortir, et j'en vois beaucoup s'en sortir, et on les voit très peu, on entend très peu parler de ces jeunes, à juste titre, ils s'en sortent, ils deviennent engagés dans leur propre vie et deviennent discrets, on n'entend plus parler. Ce dont on entend parler, évidemment, c'est ceux qui sont en plus grande difficulté. Tu me corrigeras, mais 25% des jeunes qui ont eu un parcours ASE ou PJJ, on les retrouve souvent
dans la rue.
Et ça, c'est un chiffre dramatique qui doit tous nous interroger. D'abord, peut-être nous, les professionnels, en premier lieu, de s'interroger de ce résultat quand même qui est peu glorieux, mais je sais aussi que sur le terrain, les gens de bonne foi font un travail immense à essayer de réfléchir et penser la prise en charge de ces enfants pour essayer d'être plus impactant possible. Moi, je voudrais t'interroger, Maxime, parce que tu as cette grande expérience et je voulais te demander, selon toi, les compétences indispensables pour accompagner ces jeunes. On est dans un contexte où l'attractivité des métiers est en grande difficulté, je dirais même en grande détresse, pour essayer d'attirer des professionnels volontaires pour accompagner ces jeunes. Selon toi, qu'est-ce qui est indispensable à avoir comme compétence ou comme appétit pour travailler dans ce milieu ?
Pour rejoindre la thématique de l'émission, on a bien sûr là une des voies de l'engagement nécessaire et la nécessité d'un engagement très fort. Alors, avant, on parlait de vocation. Maintenant, je ne sais pas si la réalité étant ce qu'elle est, on trouve encore beaucoup. Mais il y en a des jeunes personnes qui choisissent nos métiers et qui vraiment sont déterminées à les exercer. Alors même que, on le sait bien, les conditions d'exercice sont difficiles. Le métier n'est pas forcément très reconnu et très valorisé. Moi, j'aime beaucoup insister sur cette idée-là parce que nos collègues du terrain y sont sensibles. Les rémunérations sont pas extraordinaires. Et pourtant, on trouve encore des gens qui viennent nous rejoindre et qui s'engagent pour faire ce travail-là, certains quelques années et d'autres pour des durées beaucoup plus longues. Les qualités, elles sont d'abord personnelles, je crois, avant même les formations toujours utiles et parfois même nécessaires, mais d'abord personnelles, au sens où, encore une fois, il faut y croire, il faut avoir envie, il faut être déterminé à apprendre le métier et je dirais même plutôt à apprendre, à continuer d'apprendre à apprendre, c'est-à-dire de se situer dans une posture d'humilité. C'est pas parce que on sort d'une belle école d'éducateurs par exemple. Parfois, moi j'aime bien dire, le diplôme ne fait pas la compétence. Et cette idée-là se vérifie beaucoup dans nos métiers. On va voir des jeunes personnes arriver avec un beau diplôme et qui pourtant, face à un groupe de jeunes, face à un jeune un peu remuant, un peu difficile...
C'est ce que m'a dit mon père quand j'ai eu mon permis.
Oui, on n'est pas tout de suite conducteur.
Dis ça maintenant que tu vas apprendre.
Bon conducteur armé du permis qu'on vient de décrocher. C'est un peu la même idée. Donc des qualités personnelles, d'engagement, de détermination, évidemment d'empathie pour ces gamins-là, si on n'aime pas les enfants et en particulier les adolescents qui ont les caractéristiques dont on va reparler tout à l'heure, vaut mieux faire autre chose parce que on se retrouve vite en souffrance. Et on voit beaucoup de collègues, Après, il faut dire les choses aussi comme elles sont, hein, qui viennent un peu réparer les failles de leur propre histoire biographique dans ces métiers-là, en pensant qu'en se portant au chevet des autres, eux-mêmes iraient mieux. Et en réalité, c'est pas terrible, généralement, on le vérifie. Donc encore une fois, des qualités personnelles, d'engagement, de détermination et d'empathie. Ensuite, une belle formation. Je viens d'une génération où on suivait une formation, hein, école d'éducateurs, que ce soit celle de l'aide sociale à l'enfance, au relevant de l'aide sociale à l'enfance, ou que ce soit de la protection judiciaire de la jeunesse, le NPJJ dont on parlait tout à l'heure, l'école nationale, délivre de très belles formations.
C'est toujours le cas aujourd'hui, parce que moi je me souviens à l'époque... En 98, j'étais en école d'éducateur à Neuilly-sur-Marne et on présentait l'école nationale de la PJJ comme une école illustre, une école qui formait l'élite des éducateurs. Et on n'y rentrait pas comme ça. On avait beau avoir un diplôme d'éducateur spécialisé, il fallait passer un concours. Et c'est seulement si on réussissait ce concours qu'on rentrait dans cette
école. C'est la fonction publique, hein. Donc, dans la mesure où c'est la fonction publique, quel que soit son niveau de formation initiale, on repasse un concours. Après, il est aménagé pour ceux qui ont déjà un diplôme d'éducateur. Et ceux qui n'ont pas de diplôme d'éducateur, ils suivent une formation qui est longue. Aujourd'hui.
Mais ils arrivaient avec un bagage universitaire, quand même.
Bien sûr. En vertu des accords de Bologne, ils sont masterisés. C'est-à-dire qu'un éducateur, il sort avec un diplôme d'éducateur et un master de l'université. Donc, on voit que on va avoir des gens qui ont commencé d'apprendre un peu de philosophie, un peu de psychologie, un peu de sociologie, ont été mis en situation, et moi je crois beaucoup dans nos métiers, aux modalités pour la formation de l'alternance. C'est-à-dire qu'il est essentiel évidemment de pas se laisser abreuver ou s'abreuver de grandes théories sur les sciences de l'éducation, mais au contraire, ou parallèlement, aller très vite rejoindre des équipes et apprendre à leur contact, réveiller un gosse, le coucher, développer une activité, monter un partenariat, développer un projet, tout ça, ça s'apprend en le faisant. Et donc c'est très très important, et y compris dans la relation à l'enfant ou à l'adolescent, on voit très bien les attitudes qu'il faut avoir ou ne pas avoir, et ça c'est essentiel encore une fois de construire les parcours de formation sur cette idée de l'alternance.
On va marquer une nouvelle pause et on reprend cet échange passionnant. Merci Maxime pour ce partage. On reprend juste après cette pause musicale.
Il y aura les jours avec, les jours sans. Les amis qui retourneront leur veste en un rien de temps. Les jours de peine qui nous enchaînent et les tourments. Les amours chiennes. À l'âge où l'on renie son père, tu me renieras. Et moi je ne ferai pas de manière, pas de cinéma. Tu me diras merde, des claques se perdront, c'est comme ça. Je faisais la même. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils. Et pourtant, moi, je serai fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils. Et à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père. Les années passeront vite, on rejouera les anniversaires, les Noëls, etc. Comme tous les soirs, y aura ta mère qui attendra que tu reviennes. Quand j'aurai besoin de toi, où seras-tu? Quelque part en voyage, sur une plage, répondras-tu? Je rêverai de ton visage, je ne saurai plus quel est ton âge. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils, et pourtant, moi, je serai fier. À quoi ça sert d'être riche quand on est riche d'être père? Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils, mais à deux, on sera millionnaire.
Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père. Mon petit empereur, ne deviens pas un grand homme, sois juste un homme grand. C'est suffisant.
IDFM 98FM.
Nous revoilà avec Maxime Zenou, directeur général au groupe SOS, au pôle jeunesse du groupe SOS, en charge alors de beaucoup de choses. Hein. Je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, Maxime, mais tu as aussi crapahuté beaucoup et encore aujourd'hui dans les dom-tom, où tu vas visiter les structures, accompagner et soutenir les directeurs généraux de ces établissements, les directeurs de ces établissements. Tu vas à la rencontre des équipes, mais aussi à la rencontre des jeunes en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à Mayotte. Mayotte qui a été en grande difficulté cette année au passage du cyclone
Chido
et qui a mis à l'épreuve en fait la solidité de nos structures, hein, mais pas que, ça a aussi mis en exergue et ça a mis la lumière aussi sur les problématiques sur place. Et la justice des mineurs, que ce soit à Mayotte, que ce soit en Martinique ou en Guyane, elle rencontre des difficultés équivalentes à celles qu'on voit sur le national, mais avec des paramètres parfois, des grilles de lecture parfois différentes. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Maxime ?
Oui, avec plaisir et merci de me tendre la perche, si je puis dire, sur cette dimension-là de mon activité d'une part et de l'engagement du groupe SOS sur ces questions ultramarines. À avoir à l'esprit que le groupe SOS est très engagé et très investi hein, sur ces territoires avec plus de 1500 salariés, avec les seuls établissements qu'on a cités, CER ou CEF, présents dans ces territoires, sont gérés par le groupe SOS. Donc effectivement, ça incite à l'engagement. Moi, j'aime bien dire que les gosses des Outre-mer, c'est des gosses, quoi. Et donc, ça veut dire qu'ils vont avoir les mêmes sujets, les mêmes difficultés en termes d'éducation, en termes de d'insertion, en termes de protection de l'enfance. Et malheureusement, ce qu'on observe, c'est souvent au regard des retards de développement. En particulier, souvent, on met en tête des départements d'outre-mer en difficulté, la Guyane et Mayotte, des départements très en retard en termes de développement et avec des pratiques sociales, des pratiques éducatives qui sont pas au niveau, quoi, pas au niveau des besoins. Les réponses elles-mêmes sont pas au niveau des besoins. Un territoire comme la Guyane, c'est grand comme le Portugal. Les moyens en protection de l'enfance sont relativement limités. À l'arrivée, ça crée ces situations dans lesquelles on va trouver parfois 6, 8, 10 gosses dans une même famille d'accueil. Jamais un département en métropole n'accepterait un fonctionnement comme celui-là. Seulement là-bas, la pénurie est telle que, ma foi, on fait du mieux possible. Et là-bas aussi, il y a donc des mineurs délinquants, souvent liés à des problématiques de trafic de drogue, prostitution, proxénétisme, vol aggravé, et donc avec des infractions qui peuvent être lourdes parfois, et une inscription dans la délinquance violente. Donc là aussi, on va retrouver les mêmes réponses, hein, de la prison jusqu'aux dispositifs de placement divers et variés, et enfin, par un dispositif de milieu ouvert piloté par la PJJ et ses associations habilitées. Donc, on a finalement la même chose que dans l'Hexagone, sauf que l'échelle des réponses n'est pas à la hauteur de l'échelle des problématiques.
Et les moyens sont les mêmes qu'ici
dans les théorie. En théorie, on a droit, c'est la France, hein, même très éloignée, ça reste bien sûr la France. Et donc, on va retrouver une administration, une protection de l'enfance gérée par le département et une protection judiciaire de la jeunesse gérée par une direction territoriale qui représente son administration. En réalité, encore une fois, les moyens ne sont pas du tout à la hauteur des besoins. Donc, on part au plus pressé, on va au plus efficaces supposément, mais ça reste quand même des situations extrêmement difficiles, extrêmement tendues. Un territoire comme Mayotte aurait besoin de voir ses moyens multipliés. Et alors après la catastrophe du mois de décembre dernier, effectivement, où à peu près tout ce qui était debout sur l'île a été détruit, ou presque, ça veut dire amplifier encore les moyens pour non seulement mettre à niveau et apporter les mêmes réponses qu'ailleurs, mais on avait déjà un sujet de rattrapage du développement. Et ce sujet de rattrapage, il est malheureusement pas traité à l'aune de la réalité.
Alors, tu évoquais la délinquance des jeunes dans les dom-toms. Comparativement à ceux de la métropole, est-ce qu'il y a une nette différence, ou est-ce que finalement on retrouve un peu les mêmes ressorts ?
Moi, j'aime bien dire un enfant, c'est un enfant, un jeune, c'est un jeune. Après, on va retrouver sur certains territoires des pratiques délinquantes qui ont beaucoup à voir avec ce qu'est la réalité de la délinquance locale. La Guyane, par exemple, beaucoup de trafic de drogue, hein, beaucoup de transport de drogue par des moyens divers et variés, beaucoup d'agressions violentes, encore une fois, et des fonctionnements sociologiques du type gang. Le Brésil est proche, et au Brésil, on a beaucoup ces pratiques délinquantes-là, de regroupement dans des cultures d'appartenance à des collectifs qui peuvent être extrêmement violents, encore une fois. Et donc on va retrouver ces gosses-là quand ils sont interpellés dans nos établissements. Donc oui, c'est en même temps la même chose, et en même temps un peu différent au regard des cultures locales et notamment des pratiques délinquantes.
Je crois que j'ai en face de moi le plus grand défenseur des dom-toms. Je t'entends souvent, je le dis parce que les auditeurs ne le savent pas toujours, mais souvent je t'entends lorsqu'on est sur des séminaires ou des réunions, comme on peut dire, de directoire, etc., de CODIR. Souvent tu viens rappeler, à chaque fois, tu viens porter la parole des dom-toms.
Et oui, souvent, très souvent, ils sont oubliés.
Exactement. Et c'est leur propre père, c'est la PAIRES. Et du coup, c'est souvent qu'on évoque nos problématiques auto-centrées en métropole, et pourtant, ce sont des territoires nationaux. Elles sont des Français. Et souvent oubliés dans les dialogues et les échanges. Et toi, je t'ai vu tout le temps venir rappeler leur existence et dire leurs problématiques.
Moi, j'aime bien rappeler le mot fameux de Aimé Césaire, un grand écrivain et poète antillais. Les Outre-mer, c'est bien la France à part entière et pas entièrement à part. Ce que tu disais, bon, tant à le montrer, malheureusement. Donc, si c'est la France à part entière, ça veut dire que les mêmes moyens doivent y être alloués. Et c'est pas le cas encore aujourd'hui. On se bat avec quelques collectifs autour notamment de cette idée d'une convergence des droits sociaux. Ça veut dire que le niveau de cotisation des retraites n'est pas le même, le SMIC n'est pas le même. Enfin, il y a donc des inégalités structurelles. Alors, certains, moi je ne veux pas être grandiloquent, évoquent des conduites quasiment post-coloniales, hein, parce que toute cette histoire-là des Outre-mer français s'ancre du temps des colonies. Hein. Et donc ça veut dire qu'on n'a toujours pas, encore une fois, digéré cette appartenance de ces territoires à la France, pour ceux qui ont souhaité rester dans l'outre-mer français. Et donc à partir du moment où ils appartiennent à l'entité nationale, à l'identité nationale, et on doit pouvoir y trouver les mêmes moyens, ce qui est loin, loin, loin d'être le cas. Et effectivement, moi j'ai eu l'opportunité, égard à mes fonctions, d'aller souvent dans les outre-mer. Après, c'est pas mes origines, c'est pas ma vocation première, sauf que ma vocation première étant celle de m'occuper d'enfants. Encore une fois, on a des enfants, et parfois beaucoup, beaucoup d'enfants. Les territoires comme la Guyane et Mayotte, que je cite depuis tout à l'heure, en premier lieu, comportent une jeunesse extrêmement importante, qui est une ressource, mais qui, quand on s'en occupe pas, peut être aussi présentée aussi un certain nombre de dérives.
Maxime, on a évoqué les Outre-mer, on a parlé de des solutions, des pistes, etc. Moi, je voudrais quand même qu'on évoque ta prise de position. Souvent, tu vas éclairer ici des élus, là des parlementaires. Et je crois que tu as rencontré très récemment le défenseur des droits des enfants. Et est-ce que tu peux nous en parler rapidement? D'abord, nous dire, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, qui est et quelle est la fonction du défenseur des enfants, et nous dire un peu ce que tu as pu lui partager.
Alors, c'est une institution de la République, le défenseur des droits, qui s'appelle Claire Hédon aujourd'hui, et qui a un adjoint en charge des enfants, qui aujourd'hui se nomme Éric Delmar. Et ces personnes-là sont des gens tout à fait exceptionnels, d'engagement, là aussi, pour faire reconnaître les droits, a fortiori quand ils sont bafoués, dans tous les champs de la vie sociale. Et ce qui est intéressant pour le défenseur des enfants, c'est que les enfants eux-mêmes peuvent saisir le défenseur des droits, excusez-moi, lequel peut ensuite traiter cette situation à la fois individuelle et à la fois en même temps soulever des problématiques, la situation des droits des enfants en protection de l'enfance, la situation des droits des enfants en justice pénale des mineurs, puisque c'est notre thème aujourd'hui, et c'est d'ailleurs cette année le thème central que le défenseur des droits a retenu dans un rapport annuel qui est présenté au président de la République et qui recense les difficultés rencontrées dans le fonctionnement de la justice des mineurs pour voir les droits des mineurs respectés. Donc une institution très importante qui peut encore une fois interpeller, émettre des avis, interpeller les institutions et traiter soit de situations individuelles de droits non respectés, soit soulever des problématiques et les porter à la connaissance du public. Donc une institution importante avec laquelle notre organisation, groupe SOS, collabore volontiers et régulièrement. Moi, j'appartiens à un groupe dit comité d'entente, donc qui va regrouper les têtes de réseau nationales des organisations qui sont engagées en protection de l'enfance. Et c'est très important parce que c'est du coup un lieu d'échange d'informations, un lieu de promotion des droits, un lieu de construction d'actions communes. Et c'est très intéressant que d'avoir cette institution qui existe, par exemple, dans tous les pays européens.
Alors, Tu as pu voir ce défenseur des enfants, échanger avec lui, etc., avec d'autres, hein, pour pas le nommer, Geoffroy Casmarek, qui nous entend sûrement, voilà, que je salue. Il y a un principe de tension autour de la politique, de la justice des mineurs, de tension entre le tout éducatif et le tout répressif, qui vient suinter parfois autour des grandes orientations politiques. Souvent, cette ordonnance est mise en débat, pas assez répressive, trop éducative, etc. Qu'est-ce que ça vient dire de notre société aujourd'hui, ces phénomènes-là? Ça nous parle quand même, parce que on sent bien que ça se tend un peu partout, que on revient à des questions de réponses punitives, punir. Et c'est vrai que je suis assez frappé par une chose, c'est que aujourd'hui, c'est un peu les enfants, la délinquance des mineurs, c'est un peu le bouc émissaire, la proie un peu facile, et on ne vient pas interroger justement d'autres pans de l'éducation qui sont la famille, la cellule familiale, etc. Qu'est-ce que tu peux nous en dire depuis ton expérience sur ces questions?
Cette question, elle est effectivement très importante parce que elle n'est pas nouvelle en même temps, hein, régulièrement dans l'actualité. On voit s'opposer les tenants de l'éducation à ceux de la répression. Et moi, j'indiquais tout à l'heure combien il est essentiel de ne pas les opposer l'un et l'autre. Il faut apporter des réponses à la délinquance, incontestablement. Un mineur qui a commis des actes graves, il faut qu'il soit sanctionné. La prison reste toujours une possibilité et nous on porte un ensemble d'alternatives à la prison. Donc il faut qu'il y ait des réponses. En même temps, c'est l'opposition fameuse dans nos métiers entre enfants en danger ou enfants dangereux. Aujourd'hui, le débat public nous présente souvent les enfants comme étant source d'infractions, perturbateur du fonctionnement social. Et heureusement, ça n'est pas que ça, quoi. Donc, d'abord, un enfant qui commet un délit, il exprime aussi un certain nombre de choses. Ça veut pas dire, et je suis pas du tout favorable, parce que certains appellent une culture de l'excuse. Moi, j'excuse pas. Une faute a été commise, elle doit être punie. C'est le principe fondateur de l'action éducative, hein. Une faute commise, à toute faute, doit correspondre une sanction.
C'est intéressant évidemment pour les auditeurs d'entendre ce discours-là. Bien parce sûr. Que souvent, on a ce raccourci parfois assez simpliste de se dire, bah, les travailleurs sociaux, de toute façon, ils sont du côté des gamins, et etc. Comme ouais, si.
Du côté des victimes.
Comme si on ignorait les victimes. Voilà. Or, je ne crois pas, et tu en fais la démonstration là, puisque tu le dis, évidemment, il y a une faute qui a été commise, il y a une victime qui a souffert de cette faute, et que cette réparation doit être à la hauteur du préjudice subi. C'est pourquoi, et c'est très récent, qu'a été introduite la réparation pénale. Cette notion a été introduite. Et puis enfin, on a la loi Attal qui arrive en 2025, juin 2025, je crois, qui vient sanctionner les parents, le rôle des parents. Tu en parlais tout à l'heure, et qui soulève cette responsabilité du parent mineur. Alors, elle existait déjà un peu dans la loi, mais elle a été renforcée par cette loi Attal, qui a pas été très bien accueillie, je crois, cette approche Attal du nom du Premier ministre de l'époque, qui est resté, je crois, 6 mois. Ça n'a pas été très, très bien accueilli par le métier, j'allais dire, le milieu.
C'est-à-dire qu'il faut avoir à l'esprit que ces sujets-là, là, ceux qu'on évoque depuis tout à l'heure, souvent constituent pour les politiques une voie d'accès au pouvoir, c'est-à-dire une plateforme de conquête du pouvoir. En se faisant leur publicité personnelle sur des propositions de plus en plus sévères, de plus en plus répressives, en considérant que la question va être réglée de cette manière-là, avec des effets de mode. Hein. En ce moment, on nous a demandé, par exemple, ça c'était Monsieur Dupond-Moretti, de se rapprocher de l'armée, considérant que peut-être l'armée pouvait constituer une réponse à la délinquance des jeunes. Bon, quand on discute avec nos amis militaires, dont le métier est d'abord de se préparer à la guerre, eux considèrent que c'est pas franchement leur métier. Alors, ils ont construit avec nous des programmes pour accueillir quelques jours nos jeunes, mais on voit bien que il faut pas
raconter. Ils vont pas se substituer.
Il faut pas raconter d'histoire à la population. Il faut pas raconter n'importe quoi non plus. Or on a beaucoup entendu un peu n'importe quoi, et alors les périodes électorales en particulier, ou préélectorales, voient fleurir tout un tas de propositions extrêmement farfelues, où on va faire peser la responsabilité sur les parents. C'était le principe de la loi Attal. On va vouloir... Excusez-moi, petite toux. Où on va vouloir renforcer la pénalisation, où on va vouloir... changer les peines de prison pour prévoir des dispositifs de peines dites courtes. Voilà, donc les propositions, encore une fois, sont multiples et sont supposées régler la question. La question, elle ne se règle pas facilement. Il n'y a pas de réponse miraculeuse à la délinquance des mineurs, sinon ça saurait, tous nos prédécesseurs qui travaillent depuis des siècles sur ces sujets-là auraient trouvé la réponse magique. Il n'y a pas de réponse magique. Il y a un équilibre à trouver entre prévention, répression, et politique de solidarité.
Merci Maxime, on va marquer une nouvelle pause et on reprend sur ces questions-là.
Put a record on, I wanna dance with my baby. IDFM Radio, bien plus qu'une radio.
On reprend sur l'émission Les Voix de l'engagement avec Assad Mohamed et Maxime Zenou. Maxime Zenou, délégué général en charge des DOM-TOM, mais aussi un historique du groupe SOS, comme j'aime à le dire, qui a depuis plusieurs années, ouvert des structures, monté des structures, recruté beaucoup de monde pour prendre en charge nos enfants qui ont rencontré de la délinquance un moment dans leur vie, et ils ont été accompagnés par les équipes de Maxime qui est là avec nous. Merci Maxime d'être là encore avec nous sur cette émission Les Voix de l'engagement, nous partager ton expérience qui est riche, une expérience que tu partages volontiers sur la justice pénale des mineurs. Tu as œuvré pendant de nombreuses années pour essayer de trouver des pistes de solutions, etc. Et tu as travaillé avec beaucoup d'acteurs. Un des acteurs importants, et ça serait vraiment fou de pas parler d'eux, ce sont justement c'est les magistrats, les juges des enfants. Donc les juges des enfants aujourd'hui exercent le droit donc sanctionnent ces enfants à l'occasion d'une audience au pénal. Et ils ont cette particularité, c'est à la fois d'audiencer en assistance éducative ou au pénal. Et c'est les mêmes juges le plus souvent. Donc ils ont cette formation à l'ENM, je crois, à l'École nationale de la magistrature. Ils passent comme tous les magistrats par cette école. Et ils vont exercer ce droit. Eux-mêmes sont soumis à cette variation des lois, des décrets, des circulaires qui s'imposent à eux le plus souvent et sont amenés à prendre. Est-ce que toi qui côtoies ces magistrats, est-ce qu'ils ne deviennent pas un peu... est-ce qu'il n'y a pas une perte de sens dans les décisions qu'ils peuvent prendre à la faveur justement de cette oscillation sur les lois qui apparaissent qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus ?
Effectivement, les juges sont des acteurs tout à fait essentiels de la justice des mineurs, avec les éducateurs, avec toutes les professions qui sont nécessaires pour faire fonctionner nos établissements et mettre en œuvre nos politiques publiques. Mais les juges sont tout à fait essentiels. Effectivement, non seulement ils peuvent prendre des sanctions, mais ils protègent. Hein. Leur fonction première, c'est de protéger les enfants. Et donc pour ça, d'appliquer la loi. Et la loi aujourd'hui, encore une fois, c'est le code de l'action sociale d'un côté et le code de la justice pénale des mineurs de l'autre. Donc armé de ces deux outils qui vont leur indiquer ce qui est possible, ils vont ensuite mobiliser les réponses offertes par les services éducatifs pour apporter les meilleures réponses possibles. Et moi, j'avais connu dans le passé, tout à l'heure on a cité Jean-Pierre Rosenzweig, des générations de magistrats qui s'engageaient, hein, pour reprendre la thématique de l'émission, et qui s'engageaient dans la durée, c'est-à-dire qui restaient longtemps juges des enfants pour en apprendre les ficelles diverses et variées. Aujourd'hui, on voit moins ces vocations, entre guillemets, s'inscrire dans la durée. Construire une carrière de magistrat, ça veut dire passer d'un poste à l'autre, et pas forcément s'inscrire dans la longue durée. Donc c'est peut-être la différence que je ferais avec un temps un peu révolu où on venait vers ce métier-là de la magistrature pour s'y engager et y rester. Après, personne ne peut être blâmé dans cette affaire, parce que ça reste un métier très difficile, comme celui d'éduquer ou de rééduquer des mineurs délinquants, celui de les suivre, de les juger, il l'est tout autant, parce que, encore une fois, c'est dur. Un magistrat suit en moyenne plusieurs centaines de dossiers, hein, 300-400 dossiers dans son cabinet. Il dispose d'assez peu de moyens de proximité, un greffier quand il y en a un, et on sait que les tribunaux aussi sont en tension, et puis à l'arrivée, encore une fois, des ressources selon les territoires relativement limitées, que ce soit sur l'ASE ou que ce soit sur la PJJ. Donc on peut comprendre aussi la difficulté de s'engager dans la durée vers ce métier. Mais il est tout à fait essentiel. C'est un progrès considérable de notre pays que d'avoir constitué un corps de magistrats de la jeunesse, de magistrats de l'enfance, qui sont formés avant de prendre leur fonction. Et voilà, donc encore une fois, un acteur tout à fait essentiel de la justice des mineurs.
Essentiel et alors tu le disais aussi de proximité, parce que souvent il m'arrive d'entendre les directeurs me parler de leur expérience en CEF et me dire que le magistrat est un allié important dans l'exercice de éducatif qu'ils ont à mener dans les CEF, puisque le magistrat en théorie s'intéresse énormément au parcours du jeune dans le cadre de ce CEF, puisqu'il lui donne une chance à ce jeune, et il doit finalement vérifier tout au long de ce placement en CEF qu'il y est engagé, etc., qu'il y a des résultats. Et s'il devait finalement, ce jeune, se montrer rétif aux injonctions ou aux invitations de ses éducateurs, eh bien, ces derniers en rendent compte au magistrat immédiatement, qui peut prendre une décision de retirer le jeune finalement du CEF. C'est bien ça.
Exactement. Le rôle du magistrat dans la procédure pénale mineure ne s'arrête pas à la décision d'entrée et de sortie. Bien évidemment, le suivi s'opère en continu, et on peut avoir recours au magistrat pour à certains moments recadrer le placement, comme on dit, reposer des limites, s'assurer de la progression. Et c'est très important pour l'enfant de s'entendre rappeler la loi. Hein, la grande différence entre la justice pénale et la protection de l'enfance et les mesures prises dans un cadre administratif, c'est que on a toujours l'épée de Damoclès de la décision judiciaire, et donc ça veut dire que tout non-respect, toute forme de non-respect des prescriptions du magistrat peut être lourde de conséquences au moment où interviendra le jugement. Hein, souvent les enfants sont placés en alternative à l'incarcération et dans une période dite préjudicielle, c'est-à-dire avant le jugement, et toute cette phase qui va nous séparer de l'arrivée du jeune à partir de la décision de placement du magistrat jusqu'au jugement, ça va être en fait une phase d'observation où l'évolution va être mesurée soigneusement, les progrès ou à l'inverse les répétitions de comportements inadaptés vont être constatées, et tout ça interviendra et joue un rôle très important dans la décision que va prendre le tribunal pour enfants quand son affaire au jeune auteur de délit va arriver à l'audience.
Alors on a parlé à l'instant des magistrats qui travaillent étroitement avec les CEF, mais on a aussi des artistes qui interviennent dans les CEF, on a l'extérieur qui vient dans ce milieu fermé intervenir, participer à cette aventure, à essayer d'accompagner ces jeunes et à forcer le destin de ces jeunes. On a des copiles, je crois, qui regroupent autour de la table les élus locaux, je crois, la gendarmerie ou la police nationale, vient entendre la restitution d'une session, c'est comme ça qu'on dit, hein, une session.
Pour les CER.
Ouais, et du coup, est-ce que dans ces CEF ou ces CER, c'est précieux ça, cette participation de l'extérieur qui vient dans ces établissements.
Bien sûr, alors les contenus, alors moi tu me ramènes régulièrement sur les CEF, mais j'ai indiqué tout à l'heure qu'on a une pluralité de réponses possibles et que dans toutes ces réponses, on va mobiliser un ensemble d'outils. Bien sûr, tout ce qui va relever du soin, la santé physique, la santé mentale, très important aujourd'hui, les addictions qui sont une vraie difficulté aujourd'hui dans la prise en charge des jeunes en difficulté, et puis mobiliser toutes les ressources de la pédagogie avec un lien fort qui se construit avec l'éducation nationale pour trouver les modalités de remise en situation d'apprentissage de nos jeunes. On va mobiliser toutes les ressources des pratiques sportives, et ça c'est très très important, comme on le sait, le sport est un outil de médiation éducative essentiel. Et dans nos établissements, c'est toutes les pratiques sportives qui sont convoquées, du collectif, de l'individuel, la mer, la terre, la montagne, toutes les pratiques ont leur place en fonction des appétences et des compétences qu'on va trouver localement. Les pratiques culturelles, bien sûr, sont tout à fait essentielles. La peinture, la sculpture, le théâtre, la musique, voilà, vraiment la poésie. On a un établissement qui a initié un concours de poésie, un autre qui fait un concours de cuisine, un autre encore qui fait des ateliers philo.
La philosophie, Miloud Bellarbi,
exactement,
sur un CER.
Au centre éducatif renforcé de L20, dans le Morbihan, lui a introduit, parce que d'abord c'est aussi une passion personnelle, qu'il a une formation dédiée, et régulièrement il tient des ateliers philo avec des gamins, avec lesquels on se dit, bon, qu'ont-ils à voir avec les grands sujets de la destinée humaine? Eh ben, ça fonctionne, et ça fonctionne plutôt très bien, par exemple. Donc voilà, tous ces outils sont mobilisés et participent de la prise en charge. Deuxième dimension de ta question, c'est l'inscription territoriale, comme on dit l'administration, c'est très important. Un établissement, ça peut pas fonctionner tout seul. En autarcie, c'est pas la prison. Et même en prison, comme on le sait, des activités sont prévues, des activités de toute nature, et des intervenants extérieurs rentrent en prison. A fortiori, dans des structures éducatives, y compris au pénal, on fait intervenir beaucoup de gens qui viennent développer toutes les activités que je viens d'évoquer. Et c'est très très important qu'effectivement on les retrouve dans des instances de gouvernance de l'établissement, comité technique, comité de pilotage, qui permettent de construire les axes programmatiques de l'établissement et de s'assurer qu'on a bien mis en œuvre le projet de l'établissement.
Maxime, qu'est-ce qui différencie aujourd'hui les établissements du groupe SOS avec d'autres acteurs associatifs dans le secteur? Alors, il ne s'agit pas de fanfaronner, etc., mais simplement, quelle est la marque, qu'est-ce qui différencie ces approches d'autres approches aujourd'hui au groupe SOS?
Écoutez, pour ce qui nous concerne, il y a un engagement, je reviens sur le mot qui est important, qu'on utilise depuis tout à l'heure, fort. Je disais tout à l'heure, nous avons été dans les derniers acteurs nationaux à venir sur ces sujets-là, après avoir bien compris, analysé la philosophie, les méthodes.
Je voudrais m'arrêter deux secondes sur ce que tu dis.
Bien sûr.
On a analysé, on a pris le temps de réfléchir, oui. Tu l'as répété à deux reprises dans l'émission. Et le groupe SOS a cette particularité, c'est de ne pas aller s'engager immédiatement sur des appels à projets, sur... contrairement à ce que je peux entendre ici ou là. Et ça, c'est important de déconstruire cette idée-là, c'est que le groupe SOS a des valeurs et il va vérifier dans les appels à projets si ces valeurs sont bien alignées dans ses propositions et s'il va y répondre justement oui ou non. Moi, je t'ai vu une fois, on a échangé et on devait aller sur un projet, un appel à projet que je ne nommerai pas ici, mais tu m'as dit... Je me souviens, tu m'as dit, on n'ira pas parce que à ce prix-là, on fera pas de qualité. On n'aura pas une prise en charge de qualité pour ces jeunes. C'était il y a 10 ans. Et ça m'avait frappé. Je me suis dit, bah tiens, d'autres associations y sont allées avec un prix de journée extrêmement bas, qui réduisait les moyens humains, qui réduisait les moyens éducatifs, sportifs, etc. Et le groupe SOS n'était absolument pas... volontaire pour y aller, justement parce que il y avait une déclinaison du projet qui était pas viable pour elle et les valeurs n'étaient pas retrouvées, en tout cas dans lues entre les lignes de cet appel à projet. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots,
Oui, bien Maxime? Sûr, c'est extrêmement important. Alors c'est vrai que ce qui nous distingue, hein, souvent on est un peu jalousé, un peu regardé comme le mouton à cinq pattes, et c'est vrai que notre organisation présente des singularités. Et notamment celle-là, c'est que elle est très importante au plan national en termes quantitatifs. Près de 25 000 salariés, c'est quand même pas rien. Ça fait de cette organisation le premier opérateur de l'économie sociale et solidaire en Europe. Et donc à l'arrivée, Effectivement, ça veut dire un investissement dans toutes les questions sociales, sociétales de l'époque, avec cette singularité qui nous caractérise, c'est que on va s'occuper de personnes âgées comme d'enfance, d'emploi comme de pratiques culturelles, d'actions internationales, et encore une fois, c'est une dizaine de champs sectoriels qui ont été organisés. Ça veut dire que c'est la force du groupe SOS, c'est de n'être dépendant de personne, finalement. On pourrait aujourd'hui, par exemple, d'arrêter notre engagement du côté de la justice des mineurs, ça mettrait pas en péril l'organisation du groupe et son économie générale. Hein, la politique pénale au groupe SOS, c'est 1% de notre activité. J'ai bien dit 1% de notre activité. Donc ça veut dire que ça nous donne cette liberté d'y aller ou de pas y aller, d'investir ou de pas investir, et effectivement d'être assuré que on va pouvoir retrouver les valeurs qui sont les nôtres. Par exemple, la question des mineurs non accompagnés est un sujet important aujourd'hui dans notre pays. Au début, ils étaient pas nombreux, mais aujourd'hui, ils sont très importants à vouloir fuir la guerre, fuir la misère. Et donc, ils arrivent de manière très importante. Et donc, toute la question, évidemment, se pose de leur prise en charge. Nous, on a été les premiers à s'efforcer de ne pas aller sur ces sujets-là en considérant que ces gosses-là sont des gosses comme les nôtres et qui relevaient du droit commun de la protection de l'enfance. À un moment donné, on n'a plus pu tenir cette réponse-là poussée par nos autorités de contrôle. Et donc, on y a été, mais on n'a jamais voulu, comme tu disais très justement, accepter d'ouvrir des établissements avec 3 francs 6 sous et en sacrifiant les principes qui sont les nôtres en termes de qualité de l'accueil et de la protection de l'enfance. Ça, on a toujours refusé. Et moi, il m'est arrivé régulièrement de dire à mes interlocuteurs, pour le prix que vous proposez, je vous ouvre un refuge pour la SPA, mais pas une structure de prise en charge d'enfants en difficulté. Ça, c'est l'illustration de ce que je viens de dire.
Est-ce que, et souvent ça m'est parfois évoqué par des professionnels quand je les croise ici ou là, qui me disent, mais comment se fait-il que le secteur associatif ne marche pas ensemble, en fait, dans les appels à projets? Je m'explique. Lorsque des appels à projets peuvent arriver, il y a des prix de journée qui sont annoncés, etc. Et certains y vont, d'autres n'y vont pas. Est-ce que, à un moment donné, un dialogue entre ces institutions associatives, etc., est encore possible pour justement dire non, personne n'y va? Et il va falloir revoir un peu la copie pour y aller. C'est possible, ça?
Alors, le système de l'action sociale s'est organisé de telle manière qu'il a mis les associations un peu en concurrence, qui n'était pas le cas avant. On discutait avec les autorités de contrôle, passait une commande, et puis on ouvrait un établissement sur la base des réponses apportées à cette commande, qui était négociée de gré à gré ou dans le cadre d'un marché public avec l'administration. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Tous les appels à projets font l'objet d'une mise en concurrence des associations, et c'est vrai que ça facilite pas les complémentarités. Or, on aurait tout intérêt, effectivement, dans un champ de l'intervention sociale qui est très balkanisé, c'est-à-dire où des systèmes de représentation très diversifiés, les employeurs chez Nexem, les enfants à la CNAP, l'URIOPS et l'UNIOPS, qui est multisectoriel, et sans parler des fédérations très thématiques. Je pense à la IRE qui fédère les ITEP et les DITEP. Enfin, on a un secteur, encore une fois, il y a un dispositif de représentation qui est très éclaté. Et ça, c'est quand même très préjudiciable. Moi, pour ce qui me concerne, étant plutôt favorable au dialogue et pas absolument voulant, contrairement aux représentations qu'on peut avoir parfois sur le groupe SOS, voulant absolument tout emporter, tout faire, c'est pas du tout le cas. Le plus souvent, on vient nous chercher pour développer un projet ou reprendre une activité qui est en difficulté. Et donc, à partir de là, moi, par exemple, j'ai investi une fédération. On a cité la CNAP tout à l'heure, la Convention nationale des associations de protection de l'enfant, dans lequel beaucoup de cadres du groupe sont très engagés, justement pour faire valoir des valeurs communes et préserver les valeurs de solidarité qui doivent prévaloir, justement pour qu'on se tire pas dans les pieds les uns les autres, mais qu'on organise d'une certaine façon, à chaque fois que c'est possible, des modalités de complémentarité.
Maxime, demain, tu deviens ministre de la Justice. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu décides ?
C'est gentil d'envisager cette hypothèse, mais je ne pense pas qu'elle se pose. Moi, je me battrais pour préserver le système français très original qui est le nôtre. Franchement, les gens ne se rendent pas bien compte quoi, que c'est un dispositif très original qui protège les enfants, qui en même temps organise les sanctions, parce que on le disait tout à l'heure, et nous, on n'oppose jamais l'éducation à la sanction. Les établissements dont on parle, souvent sont privatifs d'un certain nombre de libertés. C'est-à-dire, les gosses font pas ce qu'ils veulent comme ils veulent, et en particulier les fameux CEF qu'on a évoqués à plusieurs reprises, ils sont très contrôlés, mais ça veut dire que préserver l'éventail des réponses possibles, préserver la primauté des réponses éducatives, préserver les moyens donnés à la justice des mineurs pour que sur chaque territoire, sur chaque ressort juridictionnel, comme disent les magistrats, on trouve toutes les réponses mobilisables. Le milieu ouvert, les différentes modalités du placement, du plus light au plus contraignant, et qu'à chaque fois on retrouve ça. Déjà préserver ça et faire la pédagogie de la loi telle qu'elle existe aujourd'hui, qui est une conquête, on évoque depuis tout à l'heure une progression. Faire la pédagogie de la loi, c'est sûr que c'est peut-être pas, et c'est pour ça que je serai jamais ministre, peut-être le moyen par lequel on va gagner une élection. Moi, j'aime bien dire les choses comme elles sont et pas tourner autour du pot. Donc, préserver l'existence, s'inscrire dans la continuité d'une histoire, diversifier les moyens. Il y a encore plein de sujets qui sont pas du tout réglés. Hein. Il manque des moyens, on l'a dit tout à l'heure, en Outre-mer. Nous, on a un sujet qui nous tient à cœur dans les collègues du groupe qui travaillent sur les questions pénales, mais qui vaut aussi pour l'ASE, la sortie des dispositifs. Dans quelles conditions s'opère la sortie de nos gamins des établissements de placement, une fois la mesure arrivée à son terme? Et ça, on a d'énormes progrès à réaliser pour faire en sorte que les gamins ne se retrouvent pas à la rue, comme on l'a dit tout à l'heure, ou les gamins ne tombent pas dans une récidive un peu inévitable pour les mineurs délinquants, si on n'a pas prévu ce qu'il fallait. Or, aujourd'hui, le fonctionnement des politiques publiques dans l'accompagnement à la sortie est loin, loin, loin d'être satisfaisant.
Encore un long chemin pour construire un parcours efficient, efficace, une approche française singulière à préserver. Je t'ai fait là pendant quelques secondes ministre, mais honnêtement,
par les pouvoirs qui te sont conférés.
Mais honnêtement, tu connais le sujet par cœur, et c'est vrai que aujourd'hui, ce qu'on fait est important. Il reste encore beaucoup à faire, tu l'as souligné, mais surtout à préserver le sens de cette approche. On arrive à la fin de cette émission consacrée à la justice pénale des mineurs. Avec notre invité, Maxime Zénou, nous avons traversé l'histoire des lois, les réformes récentes, les débats parfois passionnés entre répression et éducation, et surtout les effets concrets des mesures éducatives sur le parcours des jeunes. Ce que je retiens, Maxime, c'est qu'un mineur n'est jamais seulement défini par ses actes. Il est aussi un être en devenir, porteur de fragilité, mais aussi de potentialité. C'est ce que tu défends beaucoup. Derrière chaque sanction, il devrait y avoir une chance d'éducation, de réparation, de réinsertion. C'est ce que défendent tes établissements. Merci Maxime encore une fois pour ton éclairage, ton engagement, ta force de conviction, qu'une justice juste est avant tout une justice qui accompagne. Merci à vous, auditeurs, auditrices, d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site d'IDFM ou sur les réseaux, évidemment. Et on se retrouve très bientôt pour un numéro. Mais avant, vous dire qu'une date à noter importante, le 20 novembre à 20h, au cinéma L'Utopia, le groupe SOS vous accueille pour vous présenter un documentaire exceptionnel qui justement parle de ce que le groupe SOS sait faire avec ses équipes et ne parle que de ses équipes. Vous verrez dans ce documentaire des bénéficiaires, des professionnels, infirmiers, aides-soignants, éducateurs, intervenir au quotidien. Un documentaire exceptionnel qui a reçu quelques prix. On vous accueillera volontiers après ce documentaire. Un débat va s'engager avec de nombreux acteurs associatifs qui ont déjà répondu présent et qui seront nombreux pour pouvoir y participer. Puis enfin, le 20 novembre, c'est l'anniversaire de l'ACID, la Convention internationale des droits de l'enfant, et qu'on essaiera de fêter aussi évidemment ce jour-là, et on dira quelques mots aussi sur l'enfance. Voilà, on vous retrouve très vite pour une prochaine émission avec de nouveau des voix de l'engagement qui viendront, des bénévoles, des acteurs associatifs qui viendront partager leurs convictions, leurs actions avec vous. À bientôt et merci encore de nous écouter. Thank you.